Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron en campagne contre le trafic de drogue à Marseille. Comment est perçu le lancement de l'opération Placenet XXL dans la cité de la Castellane? Mathilde Vinceneux est allée à la rencontre des habitants. Journée de grève dans la fonction publique pour de meilleurs salaires. Malgré l'unité syndicale, la mobilisation est modeste. Wafia Kenich a tendu son micro à des manifestants de Seine-Saint-Denis qui réclament des moyens pour l'éducation. Une nouvelle loi sur la sécurité nationale votée par le Parlement de Hong Kong fait redouter une plus grande restriction des libertés. Les Nations Unies se disent troublées, nous irons à Pékin. 4 700 000 élèves participent à la semaine de la presse et des médias dans l'école. À Amiens, Aurore Richard a interrogé des lycéens sur leur rapport à l'information. 82 interpellations et 63 gardes à vue, c'est le dernier bilan fourni par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône à l'issue de la première opération Placenet XXL menée pour porter un coup d'arrêt au trafic de drogue. Le chef de l'État a effectué une visite surprise aujourd'hui à Marseille. Emmanuel Macron a tenu à saluer l'opération qui a associé policiers, gendarmes et douaniers dans la cité de la Castellane, au nord de la cité phocéenne. Et il a promis aux habitants que les forces de l'ordre allaient pilonner le territoire pendant des semaines pour mettre fin au trafic. Alors comment ce message a-t-il été accueilli? Réponse au micro de Mathilde Vinceneux.
Dans la cité de la Castellane, les chaises des guetteurs sont vides. Les CRS quadrillent la zone entre un labyrinthe de tours. Ils sont là depuis hier et sont restés tard dans la nuit.
On n'a même pas dormi.
Cet habitant raconte qu'un hélicoptère a survolé la cité toute la soirée. Mais cette énième opération policière ne changera rien, assure Louis. Il scrute le président entouré par les caméras.
Mais bien sûr, c'est du cinéma. Qu'est-ce qui va changer? Il va rien changer. Ça a été toujours comme ça. Tout changer, c'est pas vrai. Tout ça, on n'y croit plus. Ça y est, c'est fini. Tout ça. On a abandonné de la société. On est abandonné.
Beaucoup d'habitants refusent de parler des trafics au micro, mais racontent les points de deal aux quatre coins de la cité, les jeunes armés, les cris des guetteurs. On cohabite, explique Leïla. Elle aimerait que les trafics disparaissent, mais elle non plus ne croit plus les promesses des politiques qui se sont succédées dans la cité.
Parce qu'à chaque fois, c'est la même chanson. C'est on nous fait du remue-ménage et après, on ne voit plus personne. Voilà, il faudrait qu'on ait la police tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, j'en veux aussi aux gens qui viennent acheter. Parce qu'on blâme les gens qui trafiquent, mais si les gens ne viendraient pas acheter, en général que des gens aisés.
Des consommateurs qui forment habituellement de longues files d'attente dans la cité de la Castellane, devant des points de deal qui sont aujourd'hui à l'arrêt.
Mathilde Vinceneux à Marseille. Dans un contexte de restrictions budgétaires, ont-ils jugé le combat perdu d'avance? Les fonctionnaires appelés à une journée de grève par leur syndicat pour obtenir des hausses de salaire se sont peu mobilisés. Selon le ministère, 6,4% des agents de la fonction publique d'État étaient en grève à la mi-journée. Moins de 3% dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir.
Dans l'éducation nationale, le SNES-FSU a tout de même recensé 30% d'enseignants grévistes, 53% en Seine-Saint-Denis. Vous avez justement rencontré des enseignants et des parents d'élèves du département venus dire l'absolue nécessité de besoins supplémentaires.
Et dans le cortège parisien, on remarque rapidement les gens de Seine-Saint-Denis. Ils sont très nombreux, parmi eux Célia, enseignante de 49 ans, est venue manifester pour l'augmentation des salaires, mais pas seulement.
Il y a une demande parallèle de plan d'urgence dans le 93 pour rétablir un peu l'égalité des chances entre les élèves qui sont dans ce département qui est le plus jeune et le plus pauvre de France métropolitaine. Et ceux qui, par exemple, sont de l'autre côté du périphérique, dans les beaux quartiers parisiens. On enseigne dans des conditions qui reflètent aussi l'égard qu'on a pour ces enfants. C'est surtout la qualité de l'éducation qu'on défend et le service public d'éducation nationale.
Car dans certains établissements du département, les conditions sont incroyablement dégradées. François, enseignant à Montreuil.
Le gymnase est régulièrement inondé. Les descentes des toilettes provoquent des odeurs pestilentielles. Pendant la canicule, on avait 39 degrés dans ma salle de cours. En hiver, il y a des salles de TP en chimie où la température descend régulièrement à 12-13 degrés dans les salles.
Une situation qui mobilise également des parents d'élèves. Ils soutiennent les enseignants dans la manifestation. Natacha, 46 ans, maman de deux enfants scolarisés dans des établissements à Montreuil.
Les enfants, ils se plaignent par exemple de ne pas pouvoir fermer les portes quand ils vont aux toilettes. Il y a des toilettes qui sont cassées, la céramique est cassée. Les lavabos ne fonctionnent pas, il n'y a pas de papier. Donc c'est vraiment, il y a des enfants qui ne vont jamais, jamais aux toilettes dans les établissements, en élémentaire, au lycée.
Les uns comme les autres voudraient d'abord le minimum pour travailler et accueillir convenablement les élèves avant d'envisager une énième réforme.
Merci Wafia. Comme il le fait chaque année, le collectif des morts de la rue a rendu hommage à la mi-journée aux 656 personnes sans domicile décédées au cours de l'année passée en France métropolitaine et en Outre-mer. La moyenne d'âge des morts de la rue est de 48 ans. Le plus jeune avait 2 mois, le plus âgé 90 ans. À noter que sur cette période, 10 enfants ont été recensés par le collectif. La cérémonie, la 20e depuis la création du collectif des morts de la rue, a eu lieu aux arènes de Lutèce à Paris. Mathieu Laurent l'a suivi.
Robert, sur les marches des arènes, nous invite à rejoindre le banc le plus proche. Première lecture.
Franck, 50 ans. En janvier, à hier.
Frédéric, entouré de Jeanne, moi, tous deux de l'association Les Enfants du Canal.
Tout à l'heure, j'ai cité des noms, j'ai eu pas mal d'émotions qui m'ont traversé.
Paris 13e.
J'ai pas lâché de larmes,
Fabien,
mais j'aurais pu.
C'est vraiment
un moment, émouvant.
Le 1er janvier.
Nommer, c'est déjà rendre hommage.
Voilà, c'est ça. Ils sont plus invisibles. À partir du moment où ils ont un nom, un âge. Et un endroit de décès, c'est qu'ils étaient quelque part et qu'ils étaient quelqu'un.
À Lyon, 3e.
C'est important qu'on soit là, étant donné qu'on est peut-être les seules personnes qui ont pu les rencontrer dans leurs derniers instants de vie.
Au centre des arènes de Lutèce, de hauts bouquets de fleurs. Et sur le sol, figurant les rayons d'un soleil, des plaques écrites par des survivants de la rue qui portent le prénom et l'âge de chaque défunt, quelquefois juste le genre et un âge approximatif. Christelle Estella, coordinatrice du collectif Les Morts de la Rue.
C'est des gens qui aiment faire de la guitare, qui ont eu des enfants, qui ont parfois eu des métiers. Il y a des histoires derrière ces noms. Et ce n'est pas que des victimes de catastrophes avec des numéros. C'est des gens qui ont eu des histoires, qui sont importantes pour d'autres.
La cérémonie touche à sa fin. Élus locaux et nationaux viennent dégrainer les noms des 116 morts de la rue depuis le début de l'année et d'articuler affliction et bonnes intentions. Ce qui agace Mika. Mika qui ne vit plus en squat depuis peu.
Au niveau des hommes politiques, plus personne ne lutte contre la misère. Des Louise Michel, il n'y en a plus aujourd'hui.
Mais des bénévoles, il en reste, en témoigne l'engagement tout récent de Mathilde. Elle vient de rejoindre le collectif des morts de la rue.
Je crois que je suis très touchée par l'idée que quelqu'un puisse mourir sans récit. Donc j'avais envie d'essayer de donner un peu de temps pour qu'il soit désanonymisé. Et après, là, cette journée d'hommage, je suis assez touchée par la question du fantôme et de la mort. Et je me demande qui sont ces fantômes-là et qu'est-ce que cette journée peut leur apporter.
Un reportage signé Mathieu Laurent. Après le Sénat, l'Assemblée a approuvé la fusion de l'ASN et l'IRSN, les deux acteurs de la sûreté nucléaire. Une partie des Républicains ont joint leur voix à celle de la majorité et c'est une voix qui a fait la différence. On peut donc s'attendre à une adoption définitive de la réforme début avril. L'info sur tous les fronts, c'est le thème retenu cette année pour la semaine de la presse et des médias dans l'école. Un événement organisé par le CLIMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, et qui mobilise cette année près de 4,7 millions d'élèves de l'école au lycée. Pour eux, c'est l'occasion de découvrir les coulisses des médias, de prendre goût à l'information, de réfléchir aussi au type d'information qu'ils consomment. Bonsoir Aurore Richard.
Bonsoir.
C'est justement ce qu'a permis cet atelier que vous avez pu suivre à Amiens. Des lycéens étaient invités à créer des unes de magazines.
La première étape pour ces apprentis journalistes, c'est de choisir une thématique pour leur magazine. Le sport, le cinéma, l'écologie, la mode. Clémence Leleu, la journaliste qui anime cet atelier, énonce ensuite les règles à respecter pour réaliser cette une.
Vous avez un grand titre avec une grande photo et puis vous avez deux autres informations, ou parfois plus, deux, trois autres informations. Donc là, l'idée, c'est de trouver un titre à votre média, de garder votre angle et de trouver trois informations qui vont vous intéresser. Est-ce que vous avez des questions? Une fake news? Ben non, parce qu'on est journaliste, on essaye de faire que du vrai.
Chaque groupe se dépêche d'aller feuilleter les magazines apportés par la journaliste et d'y découper des photos, du texte. Anouk, Nathanaël et Théo, en classe de seconde section sport, sont à la recherche d'éléments pour illustrer le thème des Jeux Olympiques.
En gros, on regarde quoi? On regarde ça ou on regarde ça?
Je sais pas. Non, parce qu'en fait, il faut les transports et à côté, il a foule.
Eh bien, on colle la foule un peu sur l'image, comme ça,
ouais.
Donc là, c'est un quai de gare, c'est ça?
Oui, voilà, pour montrer que tout va être perturbé.
C'est
beaucoup plus dur de le réaliser que de le regarder. Et surtout, on se dit que sur l'affiche, on doit le faire comprendre aux gens. Et c'est peut-être, ils vont peut-être pas le comprendre comme nous, on l'avait compris.
Cet exercice est loin d'être évident, surtout pour ceux qui ne lisent pas souvent la presse écrite, à l'image de Soren.
Je regarde Quotidien et France Info et Hugo Décrypte sur Internet, sur TikTok. Je regarde plus ces résumés rapides des informations de la journée. Par rapport aux chaînes d'info comme France Info, La Une, La Deux, je trouve pas qu'il y a de différence de traitement de l'information. Je trouve qu'il va bien chercher ses sources, il vérifie bien à l'avance. Mais je trouve qu'il y a une différence de traitement par rapport à des chaînes comme BFM, CNews.
TikTok, Instagram, les réseaux sociaux sont même la première source d'information pour les moins de 25 ans. Et quand ils se tournent vers la télévision ou la radio, c'est souvent depuis leur téléphone portable. Le professeur d'histoire-géographie de ce groupe, Jean-François Grouzet, l'a bien compris. En début d'année, il leur a donc demandé de télécharger une application de médias sur leur portable et de la consulter régulièrement.
On a mis en place un petit challenge. Tous les 15 jours, ils ont un petit temps avec 5 questions d'actu. Ils ont une petite note sur 5 en fonction des réponses. Et au bout de 4 séances, ça leur permet d'avoir une petite note sur 20. Mais c'est surtout l'idée, c'est surtout de les faire travailler, de s'informer. Alors on discute quelles sont les sources, les fake news, puis du complotisme. On parlait, monsieur, on dit que la Terre est plate, l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Donc on évoque tous ces sujets ensemble. En insistant sur l'importance des sources, vérifier les infos.
Parmi les facteurs qui influencent l'adhésion aux tests complotistes, il y a notamment un usage quotidien des réseaux sociaux, d'après l'ARCOM. Malgré tout, le régulateur de l'audiovisuel note que les jeunes ne sont pas plus perméables à ces idées qu'une autre catégorie de la population.
Un reportage à Amiens signé Aurore Richard. Il souffle ses 90 bougies et a acquis une renommée mondiale. L'Orchestre National de France est le premier orchestre symphonique permanent à avoir été créé en France en 1934. Il comprend 120 musiciens. Lomic Lamoureux, nouveau contrebasson solo, l'a intégré il y a 6 mois. Véronique Rougelot, elle, y est violoniste depuis 1993. Louis-Valentin Lopez a recueilli leurs souvenirs croisés.
Tronton d'Orchestre National de France les sépare. Pourtant, les musiciens parlent à l'unisson quand ils évoquent la toute première fois qu'ils ont joué avec la formation. Inoubliable.
Ça ne s'oublie pas. Les premiers pas, c'est au mois de juillet, c'est le Festival de Saint-Denis. Symphonie de Malheur, c'est Saiji Ozawa. Et tout à coup, c'est un son.
Pour Lomic Lamoureux, c'était en 2012, il était alors musicien supplémentaire.
Dans une œuvre emblématique, Daphnis et Chloé, qui est dans le répertoire de l'orchestre depuis très 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 longtemps, je me disais, mais on entre là-dedans comme dans un chausson, tellement c'était confortable de jouer avec un orchestre qui maîtrisait si bien cette musique, le phrasé qui recherchait, la souplesse.
Un lien privilégié aussi avec la création et les compositeurs, pointe Véronique Rougelot.
Cet orchestre a créé des œuvres de Ravel, même du Tilleux qui était présent dans la salle tout le temps, dès qu'on jouait une de ses œuvres. L'orchestre a connu les compositeurs.
Autre souvenir marquant, les nombreuses tournées en France comme à l'étranger, inscrites dans l'ADN de l'orchestre.
On a la chance de partir quasiment partout dans le monde.
Je vois les premières tournées que j'ai faites au Japon, aux États-Unis avec l'orchestre. C'est incroyable, l'écoute qu'il y avait, le succès, les applaudissements. Je pense qu'on aspire toujours à aller plus haut. Je me suis jamais ennuyée à l'orchestre et je ne m'ennuierai pas.
J'ai hâte, je sais que moi le meilleur est à venir en fait.
L'ONF, ça ne sera pas toujours facile, prédit Lomic Lamoureux, mais je sais que j'y serai heureux.
L'Orchestre National de France qui est en résidence à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Dans quelle mesure la contestation pourra-t-elle encore se faire entendre à Hong Kong ? En 2020, après les manifestations pro-démocratie qui avaient secoué le territoire, Pékin avait imposé une loi de sécurité nationale. Et cette fois, c'est le Conseil législatif du territoire, le Parlement local, qui a adopté à l'unanimité sa loi de sécurité nationale. Le texte durcit encore l'arsenal répressif. Il établit de nouvelles infractions et de nouvelles peines de prison pour des infractions telles que l'espionnage, la sédition ou encore la trahison, Sébastien Berriot.
À l'issue de ce vote sans surprise, dans une assemblée dominée par des députés favorables à la Chine, le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, n'a pas tenté de dissimuler l'objectif de la nouvelle loi, disposer d'un arsenal pour prévenir, a-t-il expliqué, les révolutions de couleur, allusion aux manifestations pro-démocratie de 2019. Il y avait, selon John Lee, urgence à voter cet article 23, et effectivement le texte a été adopté avec une rapidité inédite, 30 jours seulement de consultation et 12 jours d'examen au Parlement local. Le texte vient compléter l'arsenal répressif déjà contenu dans la première loi de 2020 imposée par Pékin. Les crimes politiques sont définis avec davantage de précision, de la trahison à l'insurrection en passant par la sédition et le vol de secrets d'État. Pour certaines infractions, les peines sont allongées et peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Avec cet article 23, Hong Kong perd un peu plus de sa spécificité et renforce son alignement sur le système juridique de la Chine continentale.
Sébastien Berrieux, correspondant de France Culture en Chine. Alors que l'armée ukrainienne se retrouve en manque d'hommes et de munitions du fait de l'essoufflement de l'aide occidentale, le groupe de contact des alliés de l'Ukraine s'est réuni aujourd'hui sur la base militaire de Ramstein en Allemagne. C'est la 20e rencontre depuis le début de la guerre entre les représentants d'une cinquantaine de pays. Ils ont évoqué l'aide militaire à Kiev et assuré l'Ukraine de leur soutien durable, Sébastien Baer.
Comme à chaque réunion, les alliés dressent le bilan des dommages infligés aux troupes russes depuis le début de la guerre. 315 000 soldats tués ou blessés, une vingtaine de navires coulés ou détruits. Selon les États-Unis, le conflit a déjà coûté à Moscou 211 milliards de dollars. Mais face à l'armée russe, l'Ukraine manque d'hommes et de munitions. Dans ce contexte délicat, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, assure Kiev du soutien des alliés.
Notre message aujourd'hui est clair. Les États-Unis ne laisseront pas l'Ukraine échouer. Cette coalition ne laissera pas l'Ukraine échouer. Et le monde libre ne laissera pas l'Ukraine échouer. Si Poutine parvient à ses fins, nous serons tous moins en sécurité. Ne nous faisons pas d'illusions. Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Mais l'Ukraine peut arrêter Poutine si nous nous tenons à ses côtés et lui fournissons les armes dont elle a besoin pour se défendre.
Depuis le début du conflit, le groupe de contact de Ramstein a versé 80 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Des armes, des munitions, des véhicules blindés. Le premier contributeur européen, l'Allemagne, promet 500 millions supplémentaires par la voix de son ministre de la Défense, Boris Pistorius.
Il s'agit notamment de 10 000 munitions provenant des stocks de nos forces armées. La livraison commencera à court terme. L'Allemagne a aussi passé un contrat national pour 100 000 munitions de 155 mm. C'est une étape importante. C'est important que ce ne soit pas la loi du plus fort qui s'impose, mais la force du droit.
La plus grosse enveloppe, les 60 milliards de dollars promis par Washington, est toujours bloquée depuis des mois au Congrès. Son adoption est suspendue au bon vouloir des partisans de Donald Trump qui en ont fait un argument politique.
Sébastien Baer à Berlin. La pandémie de Covid-19 avait fortement affecté son taux de fréquentation. Le British Museum reprend la tête du classement des attractions culturelles les plus visitées au Royaume-Uni. Le musée le plus célèbre de Londres a accueilli plus de 5 800 000 visiteurs l'an dernier, soit 42% de plus qu'en 2022. On n'est pas encore tout à fait revenu aux chiffres d'avant Covid, mais c'est déjà une belle victoire, Richard Place.
Dans ces allées jamais vides, on se presse pour admirer la pierre de Rosette, des reliefs assyriens, des momies égyptiennes, de quoi voyager dans 2 millions d'années d'histoire. Francis vient régulièrement depuis qu'il est enfant. Cet architecte vit à Southampton. Il passe quelques jours de congé avec sa femme dans la capitale.
En fait, au départ, nous n'avions pas prévu de venir ici. Mais à chaque fois que l'on passe à Londres, on finit par visiter le British Museum. Il y a toujours quelque chose que l'on n'a pas encore vu. C'est immense, c'est beau. On vient ici, on se régale. Pour nous, cet endroit est très important.
L'entrée est gratuite. Seules les expositions temporaires sont payantes. C'est d'ailleurs l'une d'entre elles sur la Chine du 19e siècle qui explique en partie le succès de l'année dernière. Lucie est l'une des employées du musée. Elle ne se lasse ni des œuvres, ni de ceux qui viennent les voir.
Plein de gens d'horizons différents se retrouvent au musée. Il y a plein de profils. Ceux qui foncent vers une galerie ou une statue en particulier, ceux qui flânent, ceux qui ont un parcours bien déterminé. Ce savoir, cette connaissance doivent être diffusés le plus largement possible.
Ces derniers mois, ce sont des polémiques qui ont fait parler du British Museum. Celle qui oppose le Royaume-Uni à la Grèce, qui réclame le retour des frises du Parthénon. Même chose pour deux Moai, ces statues de l'île de Pâques, que le Chili voudrait récupérer. La direction a également été critiquée par des mouvements écologistes pour les fonds qu'elle reçoit de BP, une compagnie pétrolière, aussi pour la disparition de plus d'un millier de vestiges antiques. Certains ont été volés et vendus en ligne.
Richard Place à Londres pour France Culture. Et puis cette dernière information, alors que le groupe de services informatiques Atos s'enfonce dans la crise, le ministère de l'économie annonce que l'État va accompagner le groupe pour stabiliser sa situation financière et proposer une solution nationale de protection des activités stratégiques. Météo France prévoit surtout du soleil demain, mais il y aura des nuages et des ondées orageuses dans l'ouest. Les températures seront douces, comprises entre 4 et 12 degrés au petit matin. Elles atteindront l'après-midi 17 à 20 degrés au nord, 20 à 25 sur le reste du pays. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.